Ce programme, il est de deux sortes. Il est notre sanctification personnelle et notre vie civile, notre vie sociale. Ce que nous pouvons apporter pour le salut de nos concitoyens, pour le salut du monde. Et aujourd'hui, dans ce pèlerinage de rentrée, nous avons l'image de femmes, d'hommes qui ont dans leur vie eu la charge de tous, la sanctification personnelle et la sanctification du monde. Mais tout d'abord, cette sanctification personnelle. Il est bien évident que pour donner un sens à sa vie, pour comprendre le pourquoi de notre existence, de cet homme et cette femme qui sont à la source de notre existence, qui se sont unis corporellement, nous devons, comme on nous le dit si souvent, comme je vous le répète, avoir cette objectivité, ce regard de vérité que les enfants, que les bébés ont sur les premières semaines, les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, les premières années de leur vie. Nous avons besoin de ce réalisme qui fait notre pensée lorsque nous réfléchissons au moment où nous sommes seuls. Oui, si nous avons une vie avec les autres, avec notre famille, avec la communauté qui nous entoure, et nous sommes ici dans un lieu de prière en communauté. Nous avons eu ici, depuis le XIIe siècle, des hommes qui ont porté leur sanctification personnelle en lien avec une sanctification du tout, d'une communauté. Mais pour être ici, pour être porté par la prière commune, pour être porté par ces chants que vous avez entendus et qui ont résonné sous ces voûtes et sous les voûtes qui ont été détruites en 14-18, eh bien, il y faut une raison, il y faut une vie personnelle de prière, une vie de recueillement. Et dans ces lieux de silence, nous sommes en effet bien loin de nos lieux de bruit. Bruit des sons, mais bruit aussi des images, multipliées et tyranniques pour un certain nombre de jeunes et même de moins jeunes. Alors, en ce début d'année, notre vie de prière, elle doit consister à retrouver la foi simple et la certitude de l'existence de Dieu pour que nous puissions communiquer avec lui, lui parler quand le soir vient, quand enfin on a éteint la lumière, on a éteint l'électricité. Et si nous n'avons pas fait de prière du soir, parce que nos idées s'enchaînent et s'entrechoquent, est-ce qu'au moins au moment où nous sommes dans le noir, nous pouvons réfléchir et prier? Alors même qu'un grand nombre s'endorment avec de la musique dans les oreilles ou devant un écran. Ici, dans cette abbaye, des hommes ont voulu vivre ce silence, cette vie intérieure qui doit être la nôtre. Lorsque la Vierge Marie nous demande le chapelet, c'est une prière répétitive. C'est une prière qui nous oblige à nous arrêter. Si on la dit à toute vitesse, sans y penser absolument, il est certain qu'elle porte peu de fruits. Mais le fait même de penser au surnaturel, le fait même de penser à cet enfant, à cette femme, à ce Dieu qui s'est fait homme, eh bien, peut-être que le ciel se contente de cela. Mais cette prière qui est la nôtre, plus particulièrement le soir, plus particulièrement dans un chapelet ou dans des mots que nous envoyons vers le ciel, vers celle qui a été choisie pour être la mère du Sauveur, eh bien, tous ces mots, c'est du temps qui s'arrête, normalement, pour se tourner vers cette vie spirituelle qui l'emporte, doit l'emporter. Pendant la guerre 14-18, ces hommes qui mouraient sur les champs de bataille priaient, appelaient leur mère. Appelez sa mère alors que vous êtes par terre, blessé, et que votre mère ne va pas venir. Elle ne va pas venir sur ce champ de bataille pour vous consoler. Il y a quelque chose d'une prière, parler à quelqu'un qui est invisible, mais dont nous croyons bien qu'il existe et qu'il peut nous secourir. Voilà ce qu'un homme, au moment de mourir, quand il a 20 ans, 25 ans, peut offrir à l'invisible, au moins appeler sa mère. Et c'est pourquoi, en ce début d'année, nous nous tournons vers ces carmélites qui, elles-mêmes, ont choisi la vie religieuse, ne se sont pas mariées et ont eu leur prière personnelle aux côtés de leur prière en communauté. Elles qui ont fêté Notre-Dame du Mont-Carmel en prison le 16 juillet à l'étonnement et l'admiration de ceux qui les entouraient. Elles qui ont ciselé leur âme pour pouvoir offrir leur vie. Mais cela se fait aussi par la vie sociale. Nous ne sommes pas seuls au monde et notre prière ne peut pas être totalement isolée de tous ceux qui nous entourent. Voyez, Sainte Jeanne d'Arc avait sans doute une prière personnelle profonde, au point que Dieu est entré en relation avec elle. Saint Michel lui a parlé. Des saintes qui ont vécu 1000 ans, 1200 ans avant elle, lui ont parlé, l'ont conforté dans une mission qui n'était pas personnelle, qui n'était pas de sanctification personnelle. Sainte Jeanne d'Arc a eu la mission d'aller chercher le dauphin pour qu'il soit sacré roi à Reims, pour que la France retrouve une vie sociale fondée sur une famille royale, sur une tradition qui allait donner cette cohérence à des provinces différentes. De la même façon, ces hommes qui, dans la guerre 14-18, se sont battus, ils pensaient faire une guerre juste, et en grande partie, face à des invasions, face à des combats de peuple à peuple, on se défend à un moment donné, quelles que soient les motivations de nos gouvernants, et on défend les innocents. Et ainsi, ces hommes ont participé à cette préservation d'une histoire commune, d'une vie commune. Mais cette vie commune, elle est fondée sur justement la paix, mais la vraie paix. La vraie paix, elle vient de la prière personnelle, elle vient de l'ordre qui est en nous, elle vient du combat spirituel par rapport à nos imperfections, nos péchés, un tempérament qui nous porte au péché, que ce soit des nerveux ou que ce soit des lymphatiques, des paresseux. Nous avons toujours à nous réveiller. Mais là, maintenant, il faudrait réveiller le monde, il faudrait réveiller l'Europe, il faudrait réveiller l'Afrique, il faudrait réveiller la France, il faudrait réveiller des âmes qui prennent prétexte pour les uns de l'absence de religion, de cet athéisme qui a interdit les vœux de religion, qui interdisait aux carmélites de Compiègne de prier ensemble, de porter l'habit. Et ce prétexte de religion qui fera l'affrontement des peuples. Sauf que ce n'est pas une question de guerre de religion, de guerre de civilisation. Ici, pour nous, il n'est pas question de défendre la France, il est question de défendre le salut de l'âme. Et si l'histoire de France permet le salut de l'âme, alors il faut défendre la France. Il faut défendre la religion catholique, il faut défendre la religion chrétienne, parce que c'est la vraie religion. On ne défend pas son pays pour simplement défendre son pays en droit naturel, en loi naturelle, en légitime défense. On défend son pays non pas seulement parce qu'il a une culture, et quelle culture, mais parce qu'il est dans la vérité. Une vérité qui a fait les âmes, qui a fait des hommes, qui a fait des femmes, qui a fait des enfants, qui a fait des familles, qui a fait des personnes consacrées, qui a fait des personnes qui sont liées au Créateur, mais pas n'importe quel Créateur, pas n'importe quel miséricordieux, mais celui qui s'est fait homme. Et si nous ne pouvons pas nous réunir sans célébrer la Sainte Messe, c'est parce qu'il est là, c'est parce que ce Dieu est là, c'est parce que la France n'est la France que parce qu'elle a des églises où il y a des tabernacles, où Dieu est vraiment présent, où la foi catholique a maintenu cette présence de la Sainte Eucharistie, où toute cette liturgie et toute cette prière est liée à la présence réelle de Dieu. Où lorsque nous nous approchons pour communier, nous ne prenons pas un pain mystique, mais Jésus lui-même qui s'offre dans un sacrifice non sanglant par ses deux consécrations du pain et du vin pour que son corps, son sang soit séparé devant nous et que son saint sacrifice du Vendredi Saint soit rendu présent et que l'humanité puisse être sauvée par la grâce qui vient de l'agneau immolé, du cœur sacré de Jésus ouvert. Sinon, ça ne sert à rien. Toute paroisse, tout chrétien, tout catholique veut que les mérites du calvaire, ce sang précieux, soient répandus. Et dans la tradition liturgique, aujourd'hui, nous fêtons les quatre temps de début d'année, de septembre, où la terre va commencer à se reposer pour porter son fruit plus tard. Eh bien, ce fruit, c'est pour nous la prière, le recueillement, le silence. Et j'en vois parmi vous qui ont un certain âge, alors j'espère qu'ils savent ce que c'est que le silence. Qu'ils n'écoutent pas la radio jusqu'à 23h, minuit, pour s'endormir, qu'ils ont une vie spirituelle. Et pour les plus jeunes, qu'ils puissent se libérer pour non seulement avoir cette vie spirituelle, personnelle, mais prier le chapelet chaque jour pour la France. Que de grâce il y a pour un pays lorsqu'on prie le chapelet. Regardez ces Polonais qui ont prié le chapelet sur toutes leurs frontières pour pouvoir sanctifier leur pays, pour demander à la Mère de Dieu de les bénir, de les protéger. Devant l'hypocrisie des hommes qui exploitent les uns les autres à des fins obscures, mais pas pour la paix, mais pas pour la famille, mais pas pour l'enfant. Et nous savons bien que cette année, en France, on va permettre ce qui est déjà permis ailleurs, mais qui va arracher à un enfant de la certitude d'avoir un père et une mère. Oui, nous sommes donc appelés aussi à prier pour, en communauté, comme ces moines qui ont prié pendant tant de siècles. Nous sommes appelés cette année à nous sanctifier, pour sanctifier, que notre Seigneur Jésus-Christ, que la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de la rue du Bac, la Dame de tous les peuples, d'Amsterdam, Notre-Dame d'Akita, la Vierge Marie qui vient nous avertir, qui vient nous consoler, qui vient nous parler, pour nous dire que l'heure est importante, que nous avons à nous sanctifier pour éviter la guerre. La Vierge Marie à Fatima disait que la Première Guerre mondiale qui faisait rage ici, qui a fait que ces obus ont détruit cette nef, était due au péché, et que si ces péchés continuaient, il y en aurait une deuxième guerre mondiale, pire encore. Alors, nous n'avons pas à faire du catastrophisme. Nous avons à nous sanctifier. Nous avons à nous confesser régulièrement. Nous avons à chasser même nos péchés véniels, nos imperfections, pour que nous puissions être en paix et être des instruments de paix, pour que nous puissions reculer toujours plus le mal chez nous et chez les autres, pour que le plus grand nombre d'âmes se sauvent. Le Christ a dit « J'ai soif », il a soif du salut, nous devons avoir nous-mêmes cette soif. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.